de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je n'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème!
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial!
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, Cinérama, c'est une demi-heure pour parler cinéma. Aujourd'hui, on va jouer avec le blind test des films qui ont été tournés à La Réunion, puisque je vais vous parler de Marmaille et je vous parlerai aussi d'un film qui est en compétition à Cannes que j'ai énormément apprécié, Limonov, La Balade. Et toi, Guillaume, tu as un film?
Oui, c'est un premier film, il s'appelle Daddy-O, dans un taxi avec Sean Penn et Dakota Johnson.
Et toi, Manu, tu as deux films, dont un très attendu.
Lequel est très attendu? Oui, Conclave, avec le pape. Et puis, il y aura un documentaire qui s'appelle Un paese de resistenza.
Et deux films qui se passent en Italie, donc. Et puis toi, Sofia?
Un documentaire également sur la très controversée Leni Riefenstahl.
Mais nous commençons avec la trajectoire d'Edouard Limonov, admirablement mise en scène par Kirill Serebrennikov. Nous parlons de Limonov, La Balade.
Bah oui, c'est le film, et le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Alors, je n'aime pas tellement les biopics, mais il y en a que j'aime. Ils prennent généralement des biais, font des pas de côté, quand ils ne sont pas une interprétation personnelle de la vie d'un autre. Limonov, La Balade, film de Kirill Serebrennikov, en compétition officielle à Cannes, aurait mérité au minimum le prix de la mise en scène, tant le réalisateur russe parvient, avec finesse et talent, à livrer le trajet d'un personnage polémique, Edouard Limonov. Un personnage fascinant qui a déjà intéressé Emmanuel Carrère, qui lui avait consacré un livre. C'est d'ailleurs une adaptation libre de l'ouvrage de l'écrivain français, qui fait une apparition dans le film d'ailleurs. Alors, qui est Limonov? C'est un soviétique vivant en Ukraine qui fut ouvrier, couturier, puis écrivain, domestique, punk, communiste, pour virer vers la fin, mercenaire et un peu fasciste. Un personnage qui a toujours voulu faire de sa vie un roman et qui s'est raconté dans ses livres. Le succès n'est pas venu tout de suite, il a fallu attendre alors les années 80, un exil à New York et puis d'autres, dont un à Paris. Le plus gros problème de ce film est que pour raconter la vie de Limonov, il aurait fallu consacrer une série de plusieurs saisons. Kirill Serebrennikov fait le choix de resserrer son propos en un peu plus de 2 heures. Il fait aussi le choix d'écarter les détails pour tirer les gros traits. On voit autant les débuts en tant que poète que le passage au New York où il côtoie la bourgeoisie en tant que domestique ou ses diverses apparitions publiques une fois qu'il est connu. Alors il clash les invités dans une émission de radio en France, il dévoile sa bisexualité dans une conférence de presse alors qu'il est de retour en Russie. Limonov est un personnage de l'excès, ce qu'il rend flamboyant. Mais le réalisateur russe ne laisse jamais de côté ses contradictions, sa misogynie, sa violence, son dégoût outré, sa mauvaise foi. L'impossibilité de saisir cet homme est résolument captivante. Ben Whishaw, qui l'incarne sous diverses facettes, est vraiment exceptionnel. Et la manière dont Serebrennikov fait la jonction entre toutes les périodes qui couvrent un peu plus de 50 ans de cette vie est vraiment remarquable. Il procède par un tuilage interpénétrant les périodes, comme pour signifier que Limonov était complexe, quasi insaisissable. Le réalisateur se sert aussi de la musique, alors celle de Tom Waits, qu'on a déjà écouté le morceau bien nommé Russian Dance. qu'il se retrouve dans la crasse des rues de New York ou dans une réception mondaine, Limonov reste un rebelle, un anticapitaliste forcené, aimant les éclats, se servant de sa notoriété pour avancer ses pions, tromper son monde hein, aussi. Et ses derniers élans vers le fascisme sont écartés par le réalisateur russe qui a choisi de ne pas éclairer eh bien, toutes les facettes du personnage polémique. Ce que certains critiques lui reprochent, alors moi non, alors on s'en fout, hein, le sujet je pense est ailleurs. D'autant que ce long métrage est formellement une réussite nourrie d'une mise en scène vive et rythmée. Et la recomposition des époques est vraiment impressionnante. Enfin voilà, ça fait partie vraiment des films qui m'ont beaucoup impressionné au Festival de Cannes. Limonov, la balade, est en salle depuis le 4 décembre. On monte dans un taxi à New York, mais cette fois-ci avec Sean Penn et Dakota Johnson. Nous parlons de Daddy-O.
J'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Cinérama.
C'est votre dernier mot ?
Scénariste de l'un des plus gros cartons de l'année aux États-Unis avec Jamais Plus, hein, It End With Us, hein, avec en tête d'affiche Blake, Madame Reynolds Lively, Christy Hall signe avec Daddy-O son premier long métrage en tant que réalisatrice. Alors c'est l'occasion d'essayer de faire du neuf avec du vieux, hein, ou plutôt de l'original à la sauce des années 2020, pour donner un autre goût à une formule déjà fort connue du grand public. Alors Daddy-O commence de façon amusante, hein, comme un autre film qui se déroule en grande partie dans un taxi, le chef-d'œuvre collatéral de Michael Mann. Alors du flou, un personnage se distingue des autres, l'air grave, sort d'un aéroport et saisit un taxi au vol. Alors ici, pas de Tom Cruise aux cheveux gris, hein, mais une Dakota Johnson aux cheveux blonds. Et bon, hein, même si elle monte dans le taxi de Sean Penn, qui n'est franchement pas le plus amène ni rassurant des hommes, l'ambiance lourde se détend au fur et à mesure que se délient les langues. Et oui, quoi de mieux qu'un taxi pour parler, philosopher sur la vie, se confier ou même se confesser. Alors le chauffeur de taxi est un peu tout ça à la fois. C'est un prêtre de la route hein, qui est là pour témoigner du rythme de la ville et écouter les histoires les plus improbables. Le cinéma a su s'emparer de cette figure d'inconnu catalyseur des mots hein, et des mots de la société, hein, mots M-A-U-X et mots M-O-T-S, de Taxi, hein, avec le magnifique duo composé de James Cagney et Loretta Young, en passant par Monsieur Taxi avec l'inénarrable Michel Simon, sans oublier l'effrayant désaxé de Taxi Driver de Martin Scorsese ou celui qui ressemble le plus à Daddy-O, hein, à savoir le bijou indé de Jim Jarmusch, Night on Earth, auquel Daddy-O reprend la nuit, la rencontre de deux paumés et le compteur qui tourne comme seul horizon. Alors la grande différence avec tous ces films, c'est l'année de leur sortie. Alors oui, bien sûr que tous sont tributaires de leur époque, mais Daddy-O est un flagrant témoin de son temps. Alors qu'on reste hein, dans quelque chose d'assez classe, hein, ou tout du moins humaniste, hein, si on met bien sûr de côté le monologue terriblement violent de Martin Scorsese signant un caméo mémorable dans son non moins mémorable Taxi Driver, Daddy-O reflète bien son époque en étant extrêmement cru et vulgaire dans sa peinture du quotidien, des gens, des relations et de l'humanité en général. Alors qu'on se rassure, hein, le tout se termine assez bien hein, et il y a un vrai échange hein, entre les personnages de Dakota Johnson et Sean Penn. Mais ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent et ce dont ils sont inspirés ben, ne font franchement pas très envie. On suit la formule classique hein, de deux étrangers qui vont finir par établir une relation d'échange et de confiance suite à un long dialogue en huis clos. Bah, Daddy-O brise quelque peu l'aspect amical, touchant et sensible voulu hein, en nous présentant bah, deux personnages au final assez répugnants. Alors elle est en couple avec un homme marié qui lui envoie des dick pics, hein, soit des photos de son sexe en érection, et bon courage pour comprendre sa psyché et développer de l'empathie pour ses goûts discutables qui la font souffrir quand on devra bah, s'en tenir là. Alors il y a bien des révélations sur son passé, mais on se demande comment il est encore possible d'écrire un personnage féminin censé être intelligent en 2024 et paraître aussi nul en amour, mais cela doit être des relents de 50 nuances de gré pour la pauvre Dakota Johnson. Alors franchement, hein, la pauvre, car elle est quand même charmante et sait communiquer un peu de cette douceur au spectateur. Alors en face, il y a Sean Penn qui sait maintenant depuis 40 ans faire la crapule attachante et il y arrive avec son regard de fauve repu. Mais quand même, son personnage digne d'un marin jurant à tout bout de champ, hein, comme dans une bagarre de bar, bah là, c'est fait mettre le frein sur la sympathie qu'il peut émettre. Alors Daddy-O, hein, signifiant un terme affectueux affectueux pour désigner un homme ou un papa. On comprend ce que Dakota Johnson ne comprend pas chez son homme marié. On comprend que ça sera par contre expliqué par le viril Sean opérant un transfert entre relations paternelles et possibles relations amoureuses pas du meilleur goût. Alors on sent donc tout le poids d'une génération des cinémas complètement perdus en amour, symbolisée par des séries comme Euphoria ou donc ce Daddy-O, certes plus léger mais tout aussi révélateur. Alors dans tous les cas, la seule grâce qu'on y trouve réside dans la justesse de ces interprètes qui eux sont quand même assez impeccables.
Et oui, et d'autant plus que ce sont les deux seuls donc dans le taxi qui roule. Daddy-O en salle depuis le 4 décembre, manigance politique pour l'élection d'un pape. Nous parlons maintenant de Conclave.
Pardonnez-moi, mais la situation est très délicate.
Cinérama.
Ce film est une catastrophe.
Le pape est mort. Le trône est vacant.
Le pape est mort, moi aussi un peu à la fin du film. Alors annoncé comme une œuvre exceptionnelle alors, par une presse étrangère, alors je ne sais pas si c'est un fake ou non, qui ne fait pas du tout dans la demi-mesure si l'on s'en tient à la bande-annonce et à son affiche, tout ça qui en fait quand même des caisses, genre vous n'avez jamais vu ça. Conclave sort enfin sur nos écrans. Alors ce véhicule à Oscar, est-il à la hauteur de sa réputation? Alors j'ai envie de dire non, un peu comme d'habitude. Sommet d'académisme compassé. Conclave bénéficie néanmoins d'un scénario à sujet intéressant sur le papier, efficace et sans zone d'ombre, celui d'un thriller en robe longue qui bénéficie d'un point de départ ingénieux, bien que fictif, autant le souligner pour ceux qui chercheraient des résurgences un peu historiques qui seraient réelles, mais quand on voit sur Wikipédia, rien n'existe.
Comment c'est arrivé?
Une crise cardiaque, il paraît.
Vous savez comme les rumeurs se répandent. Et le monde entier nous regarde. Selon la tradition, l'organisation du conclave vous incombe.
La supervision de cette élection est une tâche que je n'aurais jamais pensé devoir accomplir.
Nous sommes cloîtrés et ils ne doivent pas avoir accès à des informations qui pourraient influencer leur jugement. C'est bien compris.
Le pape décède donc de façon inattendue. Donc le cardinal Lorenz est en charge d'organiser sa succession. Il se rend compte que le défunt avait caché un secret qu'il se doit de découvrir avant le choix d'un nouveau pape. Alors remarquablement interprété quand même par des comédiens épatants, de Ralph Fiennes à Stanley Tucci, en passant par Isabella Rossellini et John Lytle. Alors que des vieux, je les trouve même très vieillis, avec des acteurs que je n'avais pas vus depuis longtemps. Alors servi aussi par des dialogues de c'est travaillé, surécrit. Conclave ne parvient pourtant jamais à dépasser la surface de son sujet et devient très vite soporifique. Alors en résulte un film à la mise en scène ampoulée, avec une envie de bien faire à chaque plan millimétré, mais dont le côté appliqué s'avère vraiment voyant. Alors le suspense se dilue dans d'interminables joutes verbales jusqu'à un twist final too much et grotesque, bien dans l'air du temps, et qui est quand même... qui a fait tiquer l'église. Le film a eu des petits problèmes, mais le film n'est pas très très intéressant. Voilà.
Effectivement, tout à fait d'accord avec toi. C'est un film que j'ai vu, en plus d'un film donc un huis clos. Ils sont vraiment dans un palais du Vatican. Et c'est vrai que le scénario, il y a plein de choses qu'on sent arriver jusqu'au twist final qui finalement n'est plus une surprise et qui est franchement décevante. Je ne suis pas le seul, donc elle pensait. Conclave est en salle depuis le 4 décembre. Leni Riefenstahl fut la documentariste du régime nazi préféré d'Hitler. Un documentaire lui est consacré.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Vous voulez rire?
Conneries, 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 je vous dis. Et même saloperie,
Vous êtes beaucoup trop bavard.
Cinérama. Portrait glaçant d'une figure controversée, le documentaire d'Andrés Veiel plonge dans les zones grises de cette cinéaste légendaire du XXe siècle. Actrice et réalisatrice admirée, documentariste visionnaire, elle fut aussi la propagandiste la plus célèbre du Troisième Reich. Leni Riefenstahl était-elle une artiste apolitique, comme elle prétendait l'être, ou une nazie par accident, comme elle a souvent voulu le faire croire? Ce documentaire d'Andrés Veiel tisse une enquête pour tenter de répondre à ces questions. Grâce à l'ouverture récente de 700 caisses d'archives inédites, longtemps verrouillées par son dernier compagnon Horst Kettner, photos, bobines, enregistrements de toutes ces conversations téléphoniques que Riefenstahl elle-même consignait méticuleusement, permettent donc à Veiel de déconstruire l'image d'une femme prétendument innocente tombée au mauvais endroit, au mauvais moment. Car derrière la beauté mécanique de ses mouvements de caméra et son amour de la forme physique, se cache une réalité plus sombre. Témoin direct du massacre de juifs tués par balle en 1939, elle employa aussi des tziganes issus des camps pour tourner l'un de ses films. Jusqu'à la fin de sa vie, pourtant, Riefenstahl refusera d'assumer sa part de responsabilité en niant avoir connu la réalité criminelle du régime et en répétant inlassablement « Où est ma faute ?»
Wenn Sie gesessen sind in Ihrer Arbeit, dann geht auch eine gewisse Ausstrahlung und Kraft von Ihnen aus, die die Leute überzeugt.
Si elle a marqué l'histoire du cinéma par sa maîtrise technique et son audace formelle, notamment dans Le Triomphe de la Volonté, une commande directe d'Hitler pour glorifier le congrès nazi de Nuremberg, son travail est avant tout une quête esthétique. Elle révolutionne le langage cinématographique avec des mouvements de caméra fluides, utilisant des grues et des techniques avancées, des travelling avant-gardistes, des angles inattendus et un montage rythmique qui donne à ses films une puissance inégalée, que n'oublie pas de saluer Andrés Veiel. Le congrès nazi de Nuremberg devient sous l'œil de la cinéaste un véritable plateau de cinéma à ciel ouvert. Les colonnes d'hommes, les masses ordonnées et les fanfares participent d'une scénographie pensée autant pour le grand écran que pour le culte du Führer. Albert Speer, architecte du régime, imagine même pour l'occasion la cathédrale de glace, ce fameux dôme de lumière devenu l'un des symboles visuels du nazisme, une mise en scène qu'elle immortalise avec une précision quasi chirurgicale. Sous le régime nazi, elle bénéficie d'une autonomie en fait absolue en tant que directrice artistique, un privilège unique qui lui permet de contrôler tous les aspects de ses productions, ce qu'elle exige d'ailleurs. Mais cette quête de perfection visuelle pose une question fondamentale. Jusqu'où peut-on aller pour esthétiser le politique ? Les images de Riefenstahl, bien que fascinantes, ne sont clairement pas neutres. Elles magnifient et légitiment une idéologie criminelle. Contrairement au photoreporter Sebastián Salgado, qui est souvent accusé d'embellir les tragédies, Riefenstahl, elle, ne questionne pas, elle sublime et consent. Sans voix off explicative, Veiel expose l'hypocrisie de Riefenstahl confrontant ses interviews et ses discours de défense qui sont ponctués de nombreux coups de sang aux images d'archives. Le montage qui était l'arme de Riefenstahl pour magnifier le nazisme devient ici l'outil qui démantèle ses mensonges.
Ich kann diesen Schwein nicht unterkriegen. Am Schluss wird die Gerechtigkeit siegen.
Ihre ganze Haltung hat uns sehr, sehr imponiert.
Veiel montre également bien comment Riefenstahl a toujours été fascinée par le corps humain qu'elle glorifie dans ses réalisations. Dans Olympia, elle filme les athlètes des JO de Berlin de 1936 comme des dieux grecs, capturant leurs mouvements avec une précision obsessionnelle. Plus tard, au Soudan, elle s'intéresse aux tribus Nuba, photographiant des guerriers nus dans une démarche tout aussi esthétisante. Mais cette exploitation du corps va bien au-delà de l'admiration artistique pure. Elle traduit une obsession pour la force physique et la discipline, des valeurs intrinsèquement liées à l'idéologie nazie. Le documentaire de Veiel explore cette fascination pour la matière à travers les archives. En fait, les pellicules, leurs grains, leurs bruits, cette matérialité brute et sensorielle deviennent ici un sujet à part entière. Veiel filme l'archive elle-même en jouant sur sa sensorialité et son ambiguïté, tout comme Riefenstahl le faisait avec le corps humain, mais dans une démarche radicalement opposée, là où elle magnifiait, lui déconstruit pour révéler la vérité. Avec son approche inédite et sa richesse d'archives, Leni Riefenstahl, la lumière et les ombres, ne se contente pas d'être un portrait. À l'heure où l'on questionne plus que jamais la séparation entre l'artiste et son œuvre, le documentaire propose une enquête sur la responsabilité artistique, une réflexion sur l'éthique et le pouvoir de l'image, et enfin un regard critique sur l'héritage d'une femme qui a choisi de sublimer l'insubmersible.
Ce riche documentaire est en salle depuis le 27 novembre. L'île de la Réunion, comme on l'a rarement vu, nous parlons de Marmaille.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Mais avec joie.
Quelques films ont été tournés sur l'île de la Réunion, cette île un peu lointaine, qui est la France, mais qui est quand même peu représentée au cinéma. Ce sont rarement des grands films d'ailleurs, et tous ne s'intéressent pas à la terre qui les accueille. Marmaille est un film particulier car d'une part, il est tourné par Grégory Lucili qui est réunionnais, et d'autre part, le choix a été fait de le tourner essentiellement en créole, ce qui en fait un vrai film réunionnais. C'est déjà l'un des premiers grands intérêts de Marmaille, et je pense à tous ceux qui ne sont jamais allés à La Réunion. Marmaille, qui est une expression qu'on entend là-bas, Marmaille, voilà, elle désigne bien les enfants. Eh bien, ce film a cette qualité de représenter non pas La Réunion carte postale, mais les gens tels qu'ils y vivent. Marmaille embrasse un sujet social. Deux enfants, dont une fille enceinte, sont jetés à la rue par leur mère. Alors ils ont le choix, soit c'est direction le centre social, soit leur père, qu'ils n'ont jamais vu, les récupère.
Madame Boyer, vous pouvez être poursuivie pour délaissement parental, vous en avez conscience.
C'est plus mes enfants.
Disons, on la passe à peine quelques kilomètres de nous sans jamais essayer de voir nous. Alors que tu protèges à Marmès, c'est même pas la vôtre.
C'est dans son expérience au service de l'aide sociale à l'enfance de Saint-Leu, à La Réunion, que Grégory Lucilli a puisé son sujet. Là-bas, une assistante sociale lui a expliqué que de nombreuses mères abandonnaient leurs enfants, qu'il s'agissait d'une situation finalement banale. De là, l'idée de suivre donc des enfants confrontés à cette séparation. Alors pour Thomas, 15 ans, qui est un as du breakdance, ça tombe mal car il souhaitait remporter un concours pour partir en métropole. Et sa sœur plus âgée est une jeune mère qui, alors elle, heureusement, est pleine de ressources. Si Grégory Lucilli montre la difficile acceptation de la situation de l'adolescence, l'hébétement du père qui a reconstitué une famille, il dresse aussi le portrait d'hommes et femmes qui s'entraident, se parlent, chantent, dansent, s'émeuvent. C'est là aussi une des qualités de Marmaille de s'appréhender dans la relation à l'autre et les sentiments sans nier que le monde, que cette jeune île, finalement La Réunion, est dure pour certains.
Back and I'm better than ever. Wow. I think I got a vendetta.
Pareil, t'aimes danser? J'ai une surprise pour toi.
Bien joué, t'es en finale.
Alors au créole des uns répond le français des métropolitains ou de ceux qui travaillent dans l'administration ou l'aide sociale. Cette musique est celle de la diversité que des images de la partie est de l'île à Saint-Leu viennent accompagner. Alors il y a la ville, la zone résidentielle, les hauteurs, la plage, le jour, la nuit, les intérieurs, les extérieurs. Le film n'en finit jamais de s'ouvrir sur les possibles alors qu'on sait son personnage adolescent pris dans un étau émotionnel devant se reconstruire, quitte à prendre des coups ou en donner. Voilà, c'est un film très simple et vraiment très appréciable et je le recommande même d'ailleurs à tous ceux qui n'ont jamais mis un pied à La Réunion. Ce film nous donne l'occasion de jouer un blind test avec des films qui ont été tournés à La Réunion. 5 extraits, dont voici le premier.
Toi, tu es plus sérieux que moi. Et puis, tu n'as pas souffert. Enfin, pas pareil. Tu as aimé les filles?
Une seule.
Une seule? C'était important, alors. Quel âge elle avait?
23 et moi 26.
Et pourquoi ça n'a pas marché? Tu as sûrement voulu l'épouser. Elle n'a pas voulu?
Non, parlons d'autre chose. Cette personne est morte. Pour ça qu'après, je ne pouvais plus faire la cour à aucune fille. Et j'ai eu cette idée de chercher une femme par correspondance.
Alors, il y avait quand même beaucoup d'indices, c'est trouvé.
Manu, tu avais trouvé le casting, moi j'ai trouvé le titre.
Donc, c'était Belmondo et Catherine Deneuve dans...
La sirène du Mississippi.
Eh oui, à deux, ils ont gagné. 1969 pour ce film de François Truffaut, un industriel réunionnais décide de se marier par petite annonce. Il tombe sur Julie, mais après le mariage, eh bien celle-ci file avec tout son argent. 1,2 million de spectateurs en France. Deuxième extrait de ce blind test consacré au film tourné à La Réunion.
Mais tu veux que j'aille jusqu'où exactement avec ta mère?
Comment ça?
Ta mère, je lui fais quoi?
Mais non, mais rien, mais ça va pas ou quoi? Mais non, rien, juste faut lui remonter le moral. Donc tu l'invites à danser, pendant que vous dansez, tu lui dis qu'elle est hyper belle, qu'elle est hyper intelligente, que tu rêverais d'être avec une femme comme elle. Voilà. Mais tu peux pas, parce que t'es mariée et fidèle, mais que c'est la première qui te fait douter comme ça, que c'est un truc de fou. Ok?
Alors, vous n'avez pas trouvé, là on entendait Camille Cotin, il y a aussi Camille Chamou dans ce film, et Miu Miu qui joue la mère. C'est un film de 2018 d'Héloïse Lang. Non, toujours pas, toujours rien. Mais personne n'avait chroniqué, je crois pas. Peut-être Marine, mais qui n'est plus dans l'équipe. C'était Larguée. Deux sœurs que tout éloigne veulent remonter le moral de leur mère et partent dans un club de vacances à La Réunion. Donc tout se passe à La Réunion. 215 000 entrées pour ce film. Troisième extrait.
C'est bien isolé chez toi?
Isolé?
Contre le feu. On a reçu un gros stock d'un truc de France.
Ça s'appelle l'amiante. Alors c'est cher, mais efficace. T'en mets partout dans toute ta maison, comme ça, tu risques rien.
Ça sent bon.
Ouais, je trouve aussi.
On peut prendre ça? C'est pour le chantier, à mon avis, il y a moyen d'être plus efficace.
Bah, on va prendre ça aussi.
Ça va faire 11 grammes.
Alors, Guillaume, tu l'avais presque, t'avais jungle dans le titre, effectivement.
Le film avec... La jungle, oui.
Le terrible jungle.
Le terrible jungle, oui.
De Hugo Benamozig et David Caviglioli. Elliot, un anthropologue naïf à la recherche d'Indiens autochtones en Guyane. Alors, c'est en Guyane, mais ça a été tourné à La Réunion. Tombe sur une tribu de brigands. Dans le même temps, sa mère est à sa poursuite et elle n'a que l'aide d'un commandant de gendarmerie incompétent, interprété par Jonathan Cohen. 83 000 entrées en France seulement pour ce film que je recommande. Quatrième extrait de ce blind test.
C'était comme une hallucination prémonitoire. Salée et sucrée, dure et douce, la plus belle des hallucinations.
La plus belle des hallucinations. Salée et sucrée, dure et douce.
Mmh. trouvé, Manu.
Et c'est donc Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandicot.
Oui, film de 2018, début du XXe siècle. Cinq adolescents de bonne famille et pris de liberté commettent un crime sauvage. Après une croisière répressive, ils se mutinent et échouent sur une île sauvage. Et donc c'est la Réunion hein, où se mêlent plaisir et végétation luxuriante. 43 000 entrées seulement hein, pour ce film. Et on termine par un bijou.
Vous connaissez un peu l'histoire de l'esclavage, capitaine ?
Très très bien. J'ai écrit une ou deux chansons sur ce sujet.
Ok. Parce que dans plusieurs récits populaires du 19e siècle, le Bras Rouge est présenté comme un groupe d'esclaves qui auraient fui les plantations et auraient trouvé refuge dans la ravine du Bras Rouge. Là, ils auraient prêté le serment de libérer tous les esclaves et on raconte qu'ils descendaient dans les villes pour tuer des Blancs.
Tuer des Blancs, sont pas un peu racistes, ces esclaves ?
Faut voir le contexte aussi.
Amandine, on est quand même en 2023. Faudrait arrêter avec tous ces clichés, là. Vous savez, je vais prendre mon expérience personnelle. Je ne fréquente absolument que des Blancs. Alors oui, effectivement, il y en a des mauvais, ça c'est sûr. Mais pour la plupart, on est quand même des gens assez exceptionnels.
D'accord.
Voilà, film complètement décomplexé. Que tu as vu, Manu ?
Ah,
alors,
je l'ai vu.
Ce sont les mêmes réalisateurs que Terrible Jungle. J'ai pas été très original.
C'est Jonathan Cohen ?
Oui.
Ouais. Moi, je reconnais seulement.
Donc, ça a été diffusé sur Prime. Et
ah, d'accord.
C'est Sentinelle.
Sentinelle,
et
oui.
Et oui, par le duo donc, de Hugo Benamozig et David Caviglioli, qui ont un rapport avec La Réunion, hein, forcément, puisque tout a été tourné, là encore, en Réunion. Et il y a énormément, d'ailleurs, de références à La Réunion. François Sentinelle mène une double vie. Il est commissaire, mais aussi chanteur de charme à la recherche du succès, mais le voilà confronté à une vague de crimes qui secoue l'île de La Réunion. Sauf que lui n'a pas du tout envie d'enquêter. Voilà. C'est un film qui est encore disponible. Ainsi s'achève ce blind test consacré donc au film tourné à La Réunion. Le calvaire judiciaire de l'ex-maire de Riace, retracé dans un documentaire, nous parlons de Un paese di resistenza.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Mais avec joie.
Il était une fois un petit village de Calabre en Italie, Riace, hein, qui a pour particularité d'accueillir les migrants depuis plus de 20 ans. Ce lieu de résistance a vu son air tomber sous le joug d'une justice plus partielle que jamais, alors proche de la vague réactionnaire qui s'empare du pays depuis quelques années. Alors lors des élections parlementaires de 2018, la Ligue obtient son meilleur score historique et Matteo Salvini devient ministre de l'Intérieur. Alors son cheval de bataille, l'immigration, comme tout bon nationaliste, sans surprise, après des années d'harmonie et de bienveillance dans ce village solidaire et ouvert, la sentence tombe. Son maire, Domenico Lucano, dit Mimo, est mis en examen pour aide à l'immigration clandestine, arrêté et assigné à résidence. Le verdict surréaliste frappe par la violence de la sanction, démesurée et très orientée. Il écope de 13 ans et 2 mois de réclusion et de 1 million d'euros d'amende en première instance. Alors juste pour avoir fait venir des migrants, hein, une solution humaniste et pragmatique pour redynamiser un milieu rural en difficulté, pour avoir construit tout au long de son mandat un havre de paix. Un paese di resistenza hein, raconte avec précision l'histoire de ce village pris dans la tourmente, passant de l'effervescence à la désertification, laissant derrière elle une zone vidée de ses habitants. Ceux qui sont restés se demandent bien quels crimes ils ont pu commettre.
Il Papa a scritto nel 19 questa enciclica, ma Mimmo la scritta su queste case.
Narré sous la forme d'une petite épopée de poche par Carlo Gallo, un conteur calabrais, le film prend la forme d'une fable qui déploie une énergie galvanisante, un désir d'en découdre derrière la tragédie. Les réalisatrices, Chu Aiello et Catherine Catella, des franco-italiennes, insufflent aussi une légèreté qui adoucit une réalité terrifiante, celle d'un pays basculant dans le fascisme avec une régularité temporelle historique. Leur démarche n'est pas celle de documentaristes pseudo-objectifs, mais de militantes lucides animées par une colère saine et un amour de leur pays qui transpire à l'écran. Alors on sent derrière l'injustice et l'image que renvoie l'Italie en ce moment au reste du monde, une envie de filmer un contre-champ, celui d'un peuple qui n'est pas raciste, qui est prêt à soutenir les nobles causes. Cet idéalisme prêté à sourire, mais demeure le centre névralgique de ce film engagé. Alors les efforts de nourrir le récit d'apport fictionnel, d'un élan dramatique pour faire réagir le spectateur, ne sont pas toujours récompensés par une mise en scène soignée, elle est très soignée, même là, il y a vraiment de très belles images, mais qui manque peut-être de profondeur. La forme est soumise quand même au discours. Pour information, les charges contre Mimo ont été réduites en appel à 1 an et demi de prison avec sursis depuis. Il a été élu en juin 2024 en tant que député. Une preuve de l'utilité d'un tel documentaire et la nécessité de rester fidèle à sa vision politique, quoi qu'il en coûte.
Ce documentaire est en salle depuis le 4 décembre.
Je vous trouve si nerveux. Quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier. Merci.
On se retrouve la semaine prochaine et ce sera un peu Noël pour vous, messieurs.
Oui, j'aurai un film de Noël. C'est Noël à Miller's Point.
Et Guillaume ?
Ben, moi, c'est Noël pour moi aussi. Hein. C'est même le Noël de Teddy l'ourson.
Et puis toi, ce sera pas Noël au balcon, mais...
Absolument pas, ce sera les femmes au balcon dans la torpeur de l'été à Marseille.
À la semaine prochaine.
Merci d'être venu aussi vite.
Je vous en prie, c'est toujours un plaisir de vous voir. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne m'arrangeait pas du tout.
Bah, vous auriez dû me le dire.
Et je vous l'ai dit. Mais bon, vous m'avez forcé à venir, m'avez insulté, menacé.
Oui, c'est vrai, j'ai fait ça.
Vous avez totalement fait ça.
Oui, c'est vrai.
Ça n'a pas l'air d'aller, lui, hein.
Oh non, c'est pas vrai, c'est reparti.
Pardon ?
Il est en train de se doigter le cul.
Ah, effectivement,
ouais. Oh, debout ! Gros porc.
This is Cinerama.